À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question de la bienheureuse Anne-Marie Javoué. C'est surprenant que l'Église l'ait béatifiée dans un sens, parce qu'elle était tellement en grande difficulté avec son évêque, l'évêque d'Autun. C'est là qu'on voit que l'Église sait comprendre les choses, que sait comprendre que cette femme qui a tenu tête à un évêque et qui a eu beaucoup de difficultés avec le clergé demeure une sainte, une bienheureuse, une femme d'un courage exceptionnel. Et l'Église a su, 100 ans après sa mort, elle est morte en 1851, puis elle a été béatifiée en 1950, ce qui nous montre bien que dans l'Église, il n'y a pas que des choses pénibles, il y a des choses admirables, et des choses comme ça qui nous font nous réjouir de ce qu'elle sait reconnaître, la grandeur de certaines femmes qui ont eu beaucoup de problèmes. Elle disait d'ailleurs dans son journal, « Il m'arrive de ne pas comprendre les difficultés que je rencontre avec les autorités religieuses ou civiles. Je dois plaider, convaincre, m'abaisser, me justifier. Puis-je avouer que je trouve plus de compréhension auprès des ministres, sinon des ministères, qu'auprès des responsables religieux. Je voudrais pourtant n'être qu'une servante efficace de mon Église. » Son amour de l'Église était immense. Et dans un beau livre du père Raoul Pius, paru en 1950, intitulé « Une passionnée de la volonté de Dieu, la bienheureuse Anne-Marie Javoué », paru chez Spes, on ne trouve plus ça, évidemment, c'est paru il y a près de 50 ans, on voit sa doctrine, sa pensée, et c'est rafraîchissant. La bienheureuse Anne-Marie Javoué, c'est un apôtre des Noirs, c'est son titre, ça. Une apôtre des Noirs. Elle est née à Jallanges, en Côte d'Or, un 10 novembre 1779. Elle est baptisée dès le lendemain, le 11 novembre, c'est l'anniversaire. Elle est la fille de cultivateurs, de fermiers à l'aise. Son père s'appelait Balthazar, sa mère Claudine, donc Balthazar et Claudine Javoué. C'est un couple qui est réputé pour son sens profond de la vie chrétienne, de bons fermiers. Les Javoué sont originaires de Chamblan, un village voisin de Jallanges, où ils se sont installés à nouveau en 1786, alors que Anne-Marie, la petite, avait 6 ans. Leur fils aîné se nomme Étienne, et après Anne-Marie, sont nés 2 garçons, Pierre et Jean-Baptiste. Et là vont naître 3 filles étonnantes, Pierrette, Marie-Françoise et Claudine, c'est tous des jolis noms, hein, qui vont devenir en religion, car elles vont toutes entrer dans la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny que leur sœur aînée va fonder. Alors, en religion, elles vont s'appeler Marie-Thérèse, Marie-Joseph et Rosalie. Et Rosalie va lui succéder même comme supérieure générale. Ce sont 3 jeunes filles formidables, 3 sœurs qui deviennent des religieuses admirables. Anne-Marie Javoué fait sa première communion en 1789. C'est l'année de la Révolution française. Elle est réputée pour sa piété, aussi pour son esprit autoritaire. Bon, ça se dessine, vous voyez, c'est une sainte autoritaire, au début du moins. Mais elle va garder ça, mais elle va transformer ça dans le sens de l'Évangile. Elle a un certain ascendant, non seulement sur ses frères et sœurs, mais aussi sur ses camarades. Et lorsque la Révolution française éclate, en 1791, surtout, les prêtres qui ont refusé de prêter serment de fidélité là, au nouveau gouvernement se voient obligés de fuir pour ne pas être arrêtés. Et malgré son jeune âge, Anne-Marie, qu'on appelle souvent Nanette, ou Annette même, mais c'est plutôt, son surnom c'est Nanette, mais moi je vais l'appeler Anne-Marie pour simplifier. Alors malgré son jeune âge, Anne-Marie ne tarde pas à se rendre compte du drame qui se joue là chez ces prêtres qui sont traqués. Hein. Alors pendant plusieurs années, elle, qui n'a que finalement 11 ou 12 ans, ben, elle cache des prêtres recherchés. Elle les amène auprès des mourants pour aider les mourants à recevoir l'extrême-onction, comme on disait dans le temps, le sacrement des malades. Elle coopère activement aussi avec les habitants des villages autour pour leur permettre de célébrer des messes clandestines qu'on célèbre dans des granges et pour être... parce que c'est défendu. Alors, elle cherche aussi à détourner les soupçons des soldats. Alors, Elle va au-devant d'eux, puis elle leur offre à boire. Dans la maison de son père, Balthazar Javoué, qui est devenu maire de Chamblant. Et puis, on se doute un peu de sa complicité. On la soupçonne. Mais personne ne parvient à la surprendre. Parce qu'elle n'est pas bête du tout. Elle est même extrêmement brillante. Son activité en faveur de l'Église persécutée par les révolutionnaires français ne se limite pas à ces initiatives dont je viens de vous parler. Elle réunit aussi des enfants de Chamblant et des environs pour leur enseigner le catéchisme. Et puis, certains de ces enfants-là font leur première communion. Le jour de l'Ascension, 1698, dans une ferme isolée, voyez-vous. Et Anne-Marie Javoué a, à ce moment-là, 18 ans. Et cette même année, bien en présence d'un prêtre réfugié à Chamblant, elle fait le vœu solennel de se consacrer à Dieu, de devenir donc une religieuse. Elle a ça jusqu'au tréfonds de son être. Elle veut se dévouer aux pauvres, aux malades et aux enfants. Ça l'habite très, très, très fort. C'est une grande vocation. Durant plus de 10 ans, la vie d'Anne-Marie Javoué est ballottée dans cette période de révolution entre une recherche de sa vocation, puis la fondation de plusieurs petites écoles pour aider les enfants. Après 2 essais de vie religieuse, le premier, c'est dans une communauté de sœurs de la Charité de Besançon, puis le second, tout à fait différent, elle fait son postulat chez des trappistines. Alors là, elle est orientée par son directeur spirituel vers une vie active profondément ancrée dans la prière, comme laïque, là, et dans la complète disponibilité à Dieu. C'est la voie qui s'ouvre devant elle. Mais il faut encore plusieurs années avant que commence à se dessiner l'orientation de son action définitive qui sera fantastique. Pendant tout ce temps, Anne-Marie Javoué a cultivé avec persévérance son sens de l'organisation. Puis du réalisme, elle est réaliste, c'est pas une... elle est pas mièvre, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Cette formation pratique est renforcée par une spiritualité qui est toujours en éveil. Elle est éveillée à chaque instant à la présence de Dieu, à la présence réelle dans l'Eucharistie. Elle a une confiance absolue dans la providence de Dieu, qu'elle sait être un père. Et sa devise, c'est la sainte volonté de Dieu, parce qu'elle sait que cette volonté de Dieu est remplie d'un amour total, entier. Après quelques petites tentatives, sa première fondation se fait à Chamblant, en 1804, avec l'appui matériel de son père. Puis l'assistance de ses 3 sœurs dont je vous ai parlé, qui vont devenir ses collaboratrices fidèles tout au long de sa vie. Et là, l'évêque d'Autun reçoit, c'est avec lui qu'elle va avoir des difficultés, reçoit les vœux des premières religieuses le 12 mai 1807. Elles sont au nombre de 9, dont Anne-Marie et ses 3 sœurs. Ça fait 4 sœurs Javoué. C'est quelque chose. Javoué, c'est J-A-V-O-U-H-E-Y. Alors, la nouvelle congrégation se trouve à l'étroit. Anne-Marie Javoué, devenue supérieure générale, puis maintenant connue sous le nom de Mère Javoué, se met en quête d'une maison plus vaste pour abriter ses religieuses, mais aussi les fillettes qui leur sont confiées. Elle découvre à Cluny un ancien couvent de franciscains de Récollet, comme on disait, qui est à vendre. Alors elle l'achète grâce à la générosité de son père, Balthazar Javoué. C'est la maison mère de la congrégation. Ça commence le 24 juin 1812, en la fête de Saint-Jean-Baptiste, évidemment, comme vous savez, et va porter le nom de Saint-Joseph de Cluny. C'est le nom de ses sœurs, hein, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui sont connues dans le monde entier. Elles vont s'appeler comme ça, même après leur transfert à Paris, quelques années plus tard, en 1849. Mais Cluny, ça rappelle la grande abbaye immense des Bénédictins au Moyen-Âge. Il en reste à peine un petit morceau de cette immense abbaye. La méthode d'enseignement de Mère Javoué, qui sont éducatrices au début, et de ses sœurs, là, s'est vite appréciée dans les milieux officiels. Si bien qu'en 1816, la Société pour l'instruction élémentaire dit sa reconnaissance, à grande reconnaissance, à Mère Javoué pour son, j'ouvre les guillemets, pour son zèle pieux et respectable à l'égard du progrès de l'instruction. Et ce ne sont pas que des mots. La pédagogie des sœurs de Saint-Joseph de Cluny va bientôt dépasser les frontières de la France pour s'implanter un peu partout dans le monde. Et là, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny en arrivent à être souvent des missionnaires. Oui, des missionnaires. Si l'élan des missions catholiques a subi, disons, un temps d'arrêt durant la Révolution, puis durant l'Empire de Napoléon Ier, ben la publication de l'ouvrage de Chateaubriand, Le génie du christianisme, puis les éditions nouvelles des lettres édifiantes des jésuites dont je vous ai parlé quelquefois, et même avec les lettres édifiantes que j'ai dans leur édition originale, je vous avais déjà une émission sur un missionnaire extraordinaire. Eh bien, les rapports aussi, il y a les rapports des lazaristes, les rapports des spiritains qui sont des missionnaires, mais tout ça, ça a quand même entretenu dans le public au cours de cette période un peu sèche, là, le désir de voir se renouveler l'action missionnaire. Et au lendemain de la défaite de Napoléon Ier, en 1814, eh bien, le Saint-Siège décide de reprendre les activités de la congrégation des Propaganda Fide, de la propagation de la foi, c'est-à-dire pour propager la foi. C'est la congrégation ou le ministère au Vatican là, qui est chargé des missions, hein. Alors, ils sont chargés de rétablir la Compagnie de Jésus, d'abord les Jésuites qui ont été supprimés depuis 1773. Hein. Puis en France, ben la royauté qui est restaurée. Il y a eu le roi Louis XVIII, puis ensuite Charles X, puis Louis-Philippe. Alors, la royauté restaure la Société des missions étrangères et aussi les lazaristes et les spiritains. Puis il y a de nouvelles congrégations. Il y a les Picpusiens, les pères de Picpus, comme on les appelle. Les Dames Sacré-Cœur, oui, de Sainte-Madeleine Sophie Barra, les Sœurs de Sacré-Cœur que nous avons ici, et qui viennent d'envoyer plusieurs de leurs membres dans des pays de mission. Alors, le gouvernement songe à faire appel aux Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, puis l'occasion se présente quand l'intendant de l'île de la Réunion, qui s'appelait Bourbon dans le temps, c'est dans l'océan Indien, c'est de l'autre côté de la terre, mais lui, puis ça appartenait à la France, c'est même devenu un département français. Bien, l'intendant de l'île vient chercher en France des éducatrices. Oui, des éducatrices pour la population des Noirs, des Mulâtres, des Blancs, dont il a la responsabilité. Et le ministre de l'Intérieur s'adresse à Mère Javoué, or qui depuis longtemps désire partir au service des Noirs. Hein? Alors nous y sommes au cœur de la vie de Mère Javoué. Elle va donner sa vie aux Noirs surtout. Elle prend soin d'établir une collaboration suivie, donc, avec l'administration, aussi bien dans les colonies là, que à Paris. Elle considère de son devoir d'attirer l'attention des autorités sur l'expérience acquise pour avoir leur confiance et obtenir leur appui comme bonne éducatrice. Et ses obligations supérieures générales devraient tour à tour la retenir en France. Puis l'obliger à des déplacements constants pour visiter les fondations nouvelles, mais elle veut tellement connaître par la pratique là, les principes de l'apostolat missionnaire, puis elle parvient, malgré ses charges épouvantables, à travailler personnellement où? Au Sénégal, imaginez. C'est en Afrique, comme vous savez, puis en Guyane, en Amérique du Sud, là. Et elle profite d'ailleurs de ses séjours prolongés à l'étranger pour entreprendre des inspections dans les postes récemment fondés. Et n'oubliez pas, c'est à l'époque des bateaux à voile. Les déplacements sont difficiles, alors toujours sur la brèche. Anne-Marie Javoué, Mère Javoué, recherche le moyen d'harmoniser les nécessités sociales avec celles de la religion. Puis dans une note du 1er mars 1841 qu'elle adresse au ministre de la Marine, c'est une femme extraordinaire, en l'informant des activités entreprises, elle ajoute en substance, on apprend à lire aux enfants, on leur fait connaître la religion, on leur fait pratiquer la culture de la terre. Et sans les éloigner de leurs parents, on les soustrait aux mauvais exemples et on leur fait acquérir, je cite, la moralité de la religion, écoutez bien, la moralité de la religion dont le pouvoir est si efficace dans l'essai de la civilisation des peuples. C'est comme ça qu'on civilise les peuples, en leur donnant une morale intelligente, active, où on leur fait cultiver des terres qui leur appartiennent. Un des principaux conseils de Mère Javoué à ses sœurs, c'était de leur dire « Vos deux qualités majeures seront le courage et la bonne volonté. » Avec ces dispositions, les plus simples filles réalisent de grandes choses, hein? Le courage et la bonne volonté. Et j'aime bien ce que dit le gouverneur de la Guyane en Amérique du Sud, là, à Monsieur le ministre de la Marine en 1837, il fait un rapport, puis il dit « Madame la supérieure Javoué, prépare actuellement de vastes terrains destinés à devenir la propriété de chacun des Noirs, qui doivent recevoir prochainement leur liberté parce qu'ils étaient des esclaves. Déjà, bananiers et manioc sont plantés, de sorte qu'au jour de la libération de ces Noirs, chaque famille jouira d'une terre en plein rapport. Mais ce sont les sœurs qui plantent les bananiers, les manioc, avec l'aide de quelques personnes. Madame Javoué, ajoute le gouverneur, compte même, m'a-t-elle dit, remettre à chaque ménage assez de riz pour assurer sa subsistance pendant 4 mois. Elle les laissera libres d'habiter les cases qu'ils occupent à Mana, c'est le village où elle a fait beaucoup d'actions là-bas, en Guyane française, et d'en bâtir d'autres sur les terrains qui leur seront assignés comme propriété personnelle. Voyez-vous, elle voit déjà à l'avance qu'il faut qu'ils aient des propriétés, des maisons à eux, ces esclaves. Elle les aime. Mère Javoué, d'ailleurs, arrive en plein régime esclavagiste quand elle arrive là-bas. C'est épouvantable. Elle se trouve en présence d'une société encore ignorante, de la morale chrétienne, et elle écrit « Les Noirs sont bons, simples. Ils n'ont de malice que celle qu'ils tiennent de nous, les Blancs. Il ne serait pas difficile de les convaincre par l'exemple. Ils imitent facilement ce qu'ils voient faire aux Blancs. Vous vous imaginez bien que les Noirs n'ont pas beaucoup de vertus religieuses à copier. » Et elle ajoute, « Ils doivent croire que les catholiques sont bien au-dessous d'eux, puisqu'eux ont une religion, les Noirs, et que nous, les Blancs, nous faisons profession d'aucune. » Elle est très audacieuse, hein? Pour une sœur, une fondatrice, imaginez, à cette époque. Elle essaie continuellement d'harmoniser l'œuvre civilisatrice de son pays, la France, avec les principes de l'Évangile. Et elle n'hésite pas à tenir tête à ceux qui, pour des raisons personnelles ou politiques, essaient d'arrêter le progrès ou de le faire dévier. Alors, avec le réalisme qui la caractérise, elle entretient le dialogue avec les hommes responsables, dans des milieux les plus différents. Elle ne se départit jamais de son calme ni de sa fermeté. Elle ne se fâche pas. Ce qui lui vaut, quand même, de nombreuses inimitiés parce qu'elle est ferme. Elle lutte sans relâche pour maintenir l'esprit de charité autour des deux grands problèmes de son temps. Quoi? L'abolition de l'esclavage, puis l'administration des colonies. Vous direz, en quoi ça regarde les sœurs? Mais ça regarde une grande chrétienne comme elle, c'est sûr. Et l'œuvre civilisatrice de Mère Javoué veut entreprendre, qu'elle veut entreprendre. C'est pas facile, hein? Il faut tenir compte des intérêts de l'administration coloniale, évidemment, puis des exigences des planteurs européens qui investissent et dont l'influence est grande à Paris. Elle se trouve aux prises avec le colonialisme, cet esprit souvent pénible chez beaucoup, beaucoup de colons. Elle veut prouver à ses contemporains que l'on peut apporter la civilisation chrétienne aux Noirs d'Afrique, au Sénégal, là, et de Guyane en Amérique du Sud, sans les s'assujettir à une classe dominante qui tend à les exploiter. Alors elle trouve un appui efficace. Où? Auprès de nombreux administrateurs en France et dans les colonies, car il y a de bons chrétiens parmi eux, puis il y a de bonnes personnes. Mais elle a aussi à faire face à des adversaires très nombreux qui ne veulent pas l'écouter. Ses deux séjours à la Guyane, de 1828 à 1833, puis de 1835 à 42, ont une répercussion profonde par suite de la création du village de La Mana, dont je vous ai parlé, situé dans la forêt vierge. C'est à 200 kilomètres de Cayenne. Cayenne, c'est très important. C'est une petite ville importante qui est qui est un port de mer, hein. Ce village de La Mana, donc situé en forêt vierge, sert d'exemple pour l'organisation des collectivités noires appelées à devenir libres, comme je vous ai dit, au moment de l'abolition de l'esclavage. On a souvent pensé que cette organisation s'est inspirée de la tentative, vous savez, dont je vous ai déjà parlé, la tentative des jésuites au Paraguay, dont, mon Dieu, je vous en ai parlé quand, le 17 novembre 1997, c'était l'émission 535. Elle est disponible chez Marc-Alexandre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Par sa présence, donc, en Guyane, cette merveilleuse mère Javoué, même s'appelle mère, ainsi comme une petite sœur, hein, Ça, peu importe le nom, le titre de mère, ça n'a pas d'importance. C'est une petite sœur. Mère Javoué exerce une influence bienfaisante par sa présence à l'heure où les esprits sont surexcités par la perspective de la libération des esclaves. Mais elle ne se limite pas à gouverner la Mana, ce village-là, ou cette implantation. Elle désire participer aux travaux manuels. Elle écrit d'ailleurs, « Je visite les chantiers 4 fois par jour et même plus. » Écoutez bien, ça c'est incroyable. « Je commence chez les menuisiers et les ébénistes. Je passe chez les tourneurs, j'entre chez les sabotiers, ce qui me conduit chez les cordonniers. Et puis là, je visite les charpentiers. Je vais à la forge, ensuite chez les serruriers, les chaudronniers. » C'est incroyable, la civilisation qu'elle répand. Hein? « Quand j'ai fait la visite des arts mécaniques, je reviens au cultivateur. Là, je me trouve dans mon centre. Je vais d'abord voir les jardiniers. Puis, après avoir vu les travaux des hommes, je viens me reposer au chantier des sœurs, qui ne le cède en rien à celui des hommes. C'est avec elles que je sarcle et que je plante des haricots, du manioc, je sème du riz, du maïs, etc., en chantant des cantiques. Et je regrette que nos pauvres sœurs de France ne partagent pas notre bonheur. Dans un rapport du 4 mars 1842, bon, elle a 62 ans, qui est présenté à la commission de la colonisation, on peut lire à son sujet des observations extraordinaires. Madame Javoué a 500 travailleurs pleins de force et de santé. C'est une école de civilisation pour les Noirs. Madame Javoué a compris que les hommes de cette race étaient plus faciles à gouverner que les Blancs, et elle ne veut pas de colons européens dans son établissement. Tous les ordres religieux qui s'établissent d'ailleurs dans ces contrées ont le même sentiment. Tous écartent la race blanche. Hein? Ce qui nous montre que souvent, nous sommes bien pécheurs. Hein? Nous empêchons l'évangélisation. Évidemment, ces rapports doivent se lire dans l'esprit de l'époque. Mais on ne peut pas s'empêcher de découvrir à quel point Mère Javoué est un précurseur. C'est vraiment un précurseur. C'est dans ce même esprit que le père Liberman, dont je vous ai aussi déjà parlé, ce juif converti, ce grand ami de Mère Javoué, voulait agir, hein, se dépouiller de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit, se faire noir avec les Noirs, non en leur imposant la manière de voir de l'Occident, mais en leur laissant ce qui leur est propre. Hein. Elle disait, « Devenez pour eux comme des serviteurs, et cela pour les perfectionner, les sanctifier, les relever de leur bassesse et en faire peu à peu, à la longue, un peuple de Dieu. Servez-les. » Et lors de son second séjour à la Guyane, Mère Javoué a subi la pénible épreuve de l'interdit qui est lancé contre elle par l'évêque d'Autun, qui la prive, imaginez, des sacrements durant 15 mois. 15 mois. Il s'agit en fait d'un grave désaccord avec cet évêque. Quelle tristesse. Oh, je vous raconte ça pour que vous aimiez davantage cette sainte, cette bienheureuse, cette femme, la bienheureuse mère Anne-Marie Javoué. Mais il faut pas en vouloir à l'évêque. Il faut lui pardonner. La congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny a été créée sur le territoire du diocèse d'Autun, comme vous le savez. C'est lui qui a reçu leur vœu, le premier. L'évêque du lieu a demandé à en être donc le supérieur général, cet évêque, il veut être supérieur général, ce qui est assez fréquent dans les institutions de religieuses. Là. Cela lui permettrait d'exercer un contrôle direct sur l'administration de la congrégation puis de ses fondations. Mais quelle est la raison de cette demande? Bien, c'est qu'on est désireux donc de suivre de près, si on peut dire, l'essor rapide de cette nouvelle congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Puis, lui, il s'inquiète des absences prolongées de Mère Javoué à l'étranger. Son institut est devenu un auxiliaire actif du rayonnement de la France dans les colonies. Et c'est important qu'il y ait un contrôle, que ce soit exercé sur la formation des religieuses. Et là, certains évêques estiment que Mère Javoué n'est pas à même, elle, de remplir seule les exigences de cet essor. Et par ailleurs, elle, comme supérieure générale, elle est réputée par sa force de caractère et sa ténacité. Alors, la tension s'aggrave de rancune personnelle. Puis là, il y a des ecclésiastiques et des administrateurs qui en veulent à Mère Javoué pour son autorité, son influence. Puis des rapports sont envoyés à l'évêque d'Autun. De quoi faire rager les féministes aujourd'hui, hein? Alors, elle se trouve à la Guyane et Mère Javoué reçoit une lettre de Monseigneur d'Autun qui la presse de sanctionner de nouveaux statuts par lesquels il devient Le supérieur général de la congrégation de Saint-Joseph de Cligny, mes mères Javoué, répond au début de 1841 que toute modification des statuts de la congrégation là, ne peut se faire qu'avec l'approbation du chapitre général de la congrégation. Puis là, l'évêque répond par un interdit. Et le préfet apostolique de Cayenne est chargé de mettre Mère Javoué en demeure d'obtempérer, mais elle refuse. Et l'interdit est appliqué. C'est simple, c'est comme ça. Et c'est terrible. Aujourd'hui, il est question d'une femme de très grand caractère, qui a été béatifiée par l'Église, même si elle a eu des difficultés avec la hiérarchie, avec son évêque, l'évêque d'Autun en France. Alors, elle vient d'être interdite, si on peut dire, alors qu'elle est en Amérique du Sud, en Guyane. Elle écrit en France le 16 avril 1842, « Monseigneur d'Autun a défendu à Monsieur le préfet apostolique de m'admettre la participation des sacrements, à moins que je ne donne ma démission et que je ne le reconnaisse comme supérieur général de la congrégation. Il ne peut plus nous faire de mal. Il a fait tout celui qui est en son pouvoir. Je lui pardonne de bon cœur pour l'amour de Dieu. Je n'en serai que plus fidèle à ma vocation, qui vient de Dieu et non de lui. Il n'est pas en mon pouvoir de défaire ce que Dieu a fait. » Elle est solide. Mère Javoué est convaincue. Convaincue de quoi? Du principe qu'elle soutient. Elle est persuadée que ses difficultés font partie des épreuves de la providence de Dieu. La fermeté avec laquelle elle accepte cette condamnation n'a d'égal, on peut dire, que son sacrifice. Et avec une vertu qui tient de l'héroïcité, elle poursuit son œuvre tout en se voyant privée de la communion, alors que ses filles, elles, la reçoivent chaque jour autour d'elle. Elle écrit, « Je me promenais seule dans la forêt, et je le priais avec ferveur pour obtenir la grâce de ne pas l'offenser, puisque je ne pouvais recourir au sacrement de la miséricorde, elle ne pouvait pas se confesser même. Lorsque vient le moment finalement de s'embarquer pour la France, parce qu'elle est rappelée par son évêque en France, elle demande au préfet apostolique, qui a une espèce de vicaire au fond, épiscopal, une sorte d'évêque presque au préfet apostolique de Cayenne, elle lui demande de se confesser puis de communier, mais elle essuie un refus. Elle lui dit, « Eh bien, mon père, si un malheur arrive sur le navire, vous en répondrez devant Dieu. » C'est épouvantable. Et ce n'est que dans la maison de la congrégation à Fontainebleau, le 4 septembre, vous savez, le château de Fontainebleau, là, en France, le 4 septembre 1843, qu'elle est autorisée par l'évêque de Meaux, c'est le diocèse où était Bossuet, hein, elle est autorisée à s'approcher de nouveau des sacrements. Elle a presque 64 ans. Quelques années plus tard, elle rappelle ces événements à ses filles. Oh, j'étais heureuse alors. J'éprouva tant de consolations spirituelles que j'étais souvent obligée de m'écrier, « Oh mon Dieu, ayez pitié de ma faiblesse. Ne me prodiguez pas ainsi vos faveurs, car votre pauvre servante n'aura pas la force de les supporter. » Et ces mots semblent faire écho d'une lettre qu'elle a adressée à sa sœur, Mère Marie-Joseph Javoué. C'est une de ses trois sœurs entrées en religion avec elle, comme je vous ai dit au début de l'émission. « Ne cherchez point de protecteur parmi les hommes, ma sœur. C'est à Dieu, dans la prière, que vous devez demander ce que les hommes vous refusent. Je vous l'ai dit tant de fois, puis j'espérais que vous m'entendrez mieux cette fois que les autres. » Alors, il faut encore 3 ans de tractation pour qu'un accord intervienne entre Mère Javoué et l'évêque d'Autun. Et là, la supérieure se conforme à certaines demandes de son évêque, notamment sur l'existence d'un seul noviciat en France. Par cet acte de soumission, Mère Javoué apporte son témoignage d'humilité et d'obéissance, tout en insistant sur le fait que son engagement a été librement déterminé par elle. Et ajoutons cependant que l'évêque d'Autun n'a jamais été supérieur général de la congrégation. Mais là, passons maintenant à ce qui fait davantage la grandeur de cette femme admirable. Comment sans doute ces épreuves ont mis certaines personnes sur la réserve là, à l'égard de Mère Javoué. On se demande qui elle est comme ça. C'est même le cas de son ami le père Liberman, là, qui ménage l'évêque d'Autun, lui, tout en engageant avec Mère Javoué une correspondance suivie. Il lui adresse le 20 février 1844 la lettre suivante, je vous en lis de petits passages. Permettez que je vous adresse ces quelques lignes dans l'intérêt du salut et de la sanctification des pauvres noirs auxquels vous vous dévouez avec tant de zèle et de charité. J'ose prendre la liberté, dit-il à la fin, de vous demander quelques renseignements plus détaillés sur l'œuvre dont vous vous occupez, sur l'état des missions parmi les noirs et sur les moyens d'y faire un bien réel et solide. Peut-être votre expérience pourra-t-elle me donner quelques avis sages et utiles. Or, le père Liberman est reconnu pour un grand apôtre auprès des Noirs, et il a puisé en grande partie auprès de Mère Javoué. C'est une étrange rencontre que celle de ces deux êtres, on peut dire, des êtres d'élite, j'ai pas peur du mot, si différents dans leur caractère, et cependant, qui sont unis à tel point, c'est extraordinaire, à tel point, par un idéal commun. Elle, c'est la paysanne, la fille de fermier. Elle est robuste, elle a de vastes synthèses, elle est voyageuse. C'est une femme à la fois simple et mystique aussi. Mais lui, c'est le fils, vous vous souvenez du rabbin de Strasbourg, à l'esprit, c'est un converti, il a l'esprit analytique et raisonné. Puis c'est un malade sédentaire, il a toujours été malade, le pauvre homme. Il n'a jamais pu devenir missionnaire. Mais tous deux sont doués d'une volonté de faire et d'un ardent de zèle missionnaire. Et dès lors, il y a une correspondance qui se poursuit entre eux pendant plusieurs années. En 1848, lorsque le père Liberman s'installe au séminaire du Saint-Esprit, il a fondé les Spiritains, vous vous souvenez, bien, il a plusieurs entretiens avec Mère Javoué. Depuis un quart de siècle, Mère Javoué a travaillé au problème des Noirs. Hein. Et c'est comme un novice que le père Liberman se présente à elle et dit « J'aurais besoin, en ce moment, de votre expérience dans une affaire où je ne suis que novice et je viens avec confiance avoir recours à votre conseil. » Dès le mois d'avril 1822, donc 22 ans auparavant, Mère Javoué avait essayé d'intéresser les ecclésiastiques à ce qu'elle faisait au Sénégal, en Afrique. Et particulièrement, quoi, à l'établissement d'un petit séminaire, écoutez bien, destiné à former des prêtres noirs. Elle était, franchement, à l'avant-garde. Hein. En vue de ce projet, elle fait aménager, imaginez, une de ses maisons à Bailleul sur terrain dans l'Oise, pour servir à l'éducation d'un certain nombre d'enfants noirs, garçons et filles. Or, elle écrit, des garçons, on en ferait, selon leurs dispositions, des prêtres ou des instituteurs. Les filles pourraient devenir des religieuses ou des institutrices séculières pour l'Afrique. Et nous les ferons élever sous nos yeux dans la simplicité, l'amour du travail et des sciences utiles et surtout dans la religion, évidemment. Alors l'idée est séduisante, puis elle fait penser au succès obtenu en Asie pour le recrutement des vocations asiatiques, là, les indigènes là-bas, chinois, ou vietnamiens. Le gouvernement demande que l'on remette aux sœurs du Sénégal des enfants destinés à être envoyés en France. Le premier groupe, 8 garçons noirs et mulâtres et 3 filles noires, arrive en 1825 en France. C'est extraordinaire, ça fait 175 ans presque. Les fillettes sont mises du côté de la communauté, alors que les garçons sont placés dans les dépendances du château, où ils sont rejoints en 1827 par 6 jeunes Sénégalais. 4 autres les suivent par la suite et placés sous un instituteur de métier, on leur applique un règlement approprié, tant au point de vue des études, évidemment, que du travail manuel. On ignore toute leur vocation. Ce qui importe en premier lieu, c'est d'en faire des hommes laborieux puis de bons chrétiens, solidement instruits dans les vérités de la foi. Alors, dans les premiers temps, tout semble aller de façon satisfaisante, là, puis Mère Javoué écrit même, notre petit séminaire africain va toujours bien, et nous donne d'heureuses espérances. Oh, que nous sommes heureuses d'avoir une si belle maison. Et elle dit aussi, pour faire un bon prêtre, je vendrai jusqu'à mon dernier vêtement. Mais les difficultés ne tardent pas à surgir. C'est la maladie. Hein. Ils n'ont pas les gènes qu'il faut pour lutter contre les maladies qui circulent en France, surtout la tuberculose. La mort fait des ravages. Parce qu'ils sont en Picardie, puis le climat ne convient pas à ses enfants. On les transfère alors dans l'Aude. Et là, les années ayant passé, on donne aux jeunes Africains des professeurs de sciences philosophiques et ecclésiastiques. Et la situation semble s'améliorer, puis là, les garçons font preuve de facilité dans les études. Mais c'est la rigueur de l'hiver, de 1830. Ça fait de nouvelles victimes. Et là, les résultats définitifs sont modestes. Sur 18 Africains, 3 entrent au séminaire des Spiritains pour faire leur théologie. Ordonnés vers 1841, ils sont présents à la cour des Tuileries, le palais des Tuileries à Paris. Et l'un d'entre eux célèbre la messe en présence du roi à Fontainebleau. Et puis, ils partent ensuite pour le Sénégal. Et c'est alors que les difficultés commencent. Pris dans une ambiance de discorde et de malaise, dans un milieu administratif anticlérical, et parmi des chrétiens indifférents, là, surtout les Blancs, ils vivent durant plusieurs années dans des changements perpétuels qui sont dus à un manque d'organisation de l'Église qui est à ses débuts, et en fait, on les a placés dans un cadre qui n'est pas encore prêt à les recevoir, ces pauvres prêtres. Alors, de guerre lasse, ils s'expatrient en 1853. Deux d'entre eux meurent rapidement, l'un en route vers la France et l'autre peu après son arrivée à Haïti. Le troisième s'établit en France où il est quand même successivement curé, puis ensuite professeur au collège de Juilly, puis enfin curé dans le diocèse de Meaux où il termine ses jours. Une autre figure sénégalaise à sa place ici, c'est la petite Florence, une jeune Peule, qui est baptisée par les soins de Mère Javoué et qui s'accompagne durant plusieurs mois en Afrique. Alors elle vient en France avec la supérieure générale, qui veut en faire sa secrétaire, mais là aussi le projet échoue, parce que Florence tombe malade, puis elle meurt prématurément, toujours, les microbes. L'apostolat des Noirs par les Noirs, tel a été le but de cette bienheureuse Mère Javoué. Si elle n'a pas pleinement réussi, elle a du moins tracé la voie, C'est celle de la fondation d'un petit séminaire. C'est un témoignage de bon sens. Puis le père Liberman s'en est bien rendu compte lorsqu'il écrit en 1844 « Vous me mettez un appât bien attrayant à l'hameçon, un petit séminaire. C'est bien par là qu'on peut m'attraper car je soupire et je languis après une maison d'études pour les Noirs. Je suis convaincu que nous ne pourvoirons au salut de l'Afrique que par là. » Alors, les rencontres entre Mère Javoué et le père Liberman ont pour résultat de donner un élan nouveau au postulat des Noirs. Elles donnent aussi lieu à des échanges de vues qui ont pour but d'établir une collaboration spirituelle entre les Pères du Saint-Esprit et les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Tout en admirant le caractère puissant de Mère Javoué, le père Liberman avait essayé de retenir certains de ses élans. Il dit « Ne pressez pas trop les choses ». En 1844, ça. La même année, un mois plus tard, il y dit « Ne nous tourmentons pas si le succès de nos projets se fait attendre. Ne veuillons pas le bien plus que Dieu le veut, ni autrement qu'il le veut. » À plusieurs reprises, il essaie de calmer la tension qui continue à exister entre la supérieure générale et Monseigneur d'Autun, l'évêque d'Autun, malgré l'accord survenu entre eux, quoi. Quoi qu'il en soit, l'œuvre avance et l'attitude de Mère Javoué semble s'insérer dans les projets de Dieu. Et son prestige n'a fait que grandir dans les milieux les plus divers. Et en fait, elle ne rencontre des difficultés qu'auprès d'un nombre restreint d'ecclésiastiques. Dans l'ensemble, les milieux officiels de l'Église la laissent faire et essaient même d'aplanir ses difficultés avec Monseigneur d'Autun, comme quoi elle est déjà acceptée, ce qui présage la béatification qui va venir un siècle après sa mort. En 1950, qu'elle sera béatifiée. En tout cas, le nonce, Monseigneur Fornari, qui est représentant du pape, l'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, l'appuie. Les deux plus grands dignitaires, quoi. La popularité immense de Mère Javoué ne se limite pas aux Noirs de la Mana, là, en Guyane. Depuis de nombreuses années, tous ceux qui la connaissent ont été impressionnés par son action, son autorité. Il y a Lamartine qui fait son éloge. Même le roi Louis-Philippe, qui dit d'elle... Je m'excuse auprès des féministes. Il dit « Madame Javoué, c'est un grand homme. » À Cayenne, ses ennemis la surnomment « la Reine Blanche ». Et les Amérindiens des environs de la Mana l'appellent « le grand capitaine Javoué ». Le commandant du navire qui l'amène à Cayenne dit « C'était une rude femme, mon pu vieux matelot. » Et les gens des barricades de 1848, là, il y a eu des barricades, s'écrient à son approche « Laissez passer la générale, j'avoue. » Non seulement elle se signale à l'estime de ses contemporains par son rôle en France puis dans les diverses colonies où elle passe, où elle a passé, mais elle gouverne sa congrégation avec un sens profondément religieux. Hein. Il n'est pas question d'une spiritualité mièvre, mais bien plutôt de quelques principes solides puisés à l'Évangile, l'Évangile qu'elle porte continuellement sur elle. Et l'État lui demande des éducatrices et des hospitalières, et Mère Javoué lui fournit en surplus des religieuses qui apportent aussi avec elles le témoignage du Christ. Elle dit « Il faut à la congrégation des âmes vraiment religieuses, ayant l'esprit de notre Seigneur et sachant s'oublier elle-même pour ne s'occuper que des intérêts de Dieu. » Alors, Mère Anne-Marie Javoué, la bienheureuse Mère Javoué, confie la direction des maisons de l'île Bourbon, qui est devenue l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Elle confie ça à sa sœur, Mère Rosalie Javoué, la plus jeune. Elle lui donne comme instruction, écoutez ça, surprenant, quand on pense à l'époque. Ne soyez pas trop faible pour vos sœurs. Vous les rendriez malheureuses par la suite. Faites-en de bonnes et saintes religieuses. Le reste n'est rien. Qu'elles soient fermes et courageuses et non des femmelettes à qui il faut parler avec des gants. C'est incroyable. Je n'en reviens pas quand je lis des choses de la bouche de cette bienheureuse. Admirable. Je l'aime beaucoup, cette Anne-Marie, j'avoue. Elle est formidable. Une fois arrivée à destination, donc, que ce soit en Afrique ou en Guyane, aux Antilles ou dans le Pacifique, les religieuses doivent s'établir définitivement dans la localité de leur assignation. Elles doivent faire comme les petites sœurs de Jésus dont je vous ai parlé vendredi dernier en parlant de petite sœur Madeleine, leur fondatrice. Elles doivent s'intégrer au milieu et faire partie de la collectivité qu'elles viennent servir, sans faire de distinction entre les blancs et les noirs. Elles ne doivent pas s'isoler dans leur apostolat. Et la bienheureuse Mère Javoué leur écrit « Attachez-vous spécialement aux enfants. » C'est un beau secret, ça. Écoutez bien ça. C'est ce que le cardinal Turcotte essaie de faire avec, en s'intéressant aux jeunes de notre diocèse. « Attachez-vous spécialement aux enfants. C'est par là, mes chères filles, que vous parviendrez peu à peu à civiliser chrétiennement ces pays. Ces pauvres enfants, quand vous les aurez bien élevés et qu'elles aimeront bien le bon Dieu, ce sont elles qui réussiront le mieux à éclairer leurs parents, leurs amis et leurs connaissances. » Alors, elle conserve pour toutes ses filles, ses sœurs, une affection maternelle. Elle dit, c'est beau ça, je ne vais vous parler que de ma tendresse pour vous, qui devient plus vive à proportion de votre éloignement. Je pense à vous continuellement. J'en parle souvent et quand j'ai du chagrin, je vous le raconte et j'y trouve du soulagement. Oh, il y a des moments où je désire si ardemment vous voir que, si j'étais dans un port, rien ne m'empêcherait de prendre le bateau. Cependant, ne vous scandalisez pas. Je suis soumise à la volonté de Dieu. Alors, durant sa vie, là, Mère Javoué répand ses sœurs à pleine main sur la surface de la terre. Hein. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny prennent racine partout. À l'île de la Réunion, je vous l'ai dit, au Sénégal, en Gambie, en Guyane, en Guadeloupe, en Sierra Leone, en Martinique, je continue. À Trinidad, à Saint-Pierre-et-Miquelon, oui, tout près du Canada, là, près de Terre-Neuve, à Pondichéry, en Inde, à Madagascar, à Karikal, à Tahiti, dans le Pacifique, à Nosibé, aux îles Marquises, où les hommes, paraît-il, dévoraient leurs femmes. Au moment où ces filles allaient partir pour les Marquises, d'ailleurs, elle écrit avec cette simplicité qui la caractérise aux heures les plus solennelles, parce que c'est une femme simple et vraie. Elle écrit, des sœurs vont partir pour tenter aux îles Marquises l'essai difficile de faire comprendre aux habitants que les femmes ont une âme, qu'elles sont la moitié du genre humain et qu'on ne doit pas les manger comme ils le font à présent. Incroyable. Alors il faut à la congrégation, dit-elle, des âmes vraiment religieuses, pleines de courage et d'énergie, de bonne volonté et de dévouement. Oui, ce que je demande avant tout au bon Dieu, ce sont des âmes, qui est l'esprit de notre Seigneur. C'est pas tout de croire en Jésus-Christ. Voici d'avoir son esprit. Ah, elle le savait, elle. Oui, des âmes, dit-elle, qui sachent s'oublier elles-mêmes pour ne s'occuper que des intérêts de Dieu, qui soient en un mot des âmes de sacrifice. Alors l'œuvre est prospère en France et à l'étranger, puis la mère Javoué pressent sa fin prochaine. Elle dit, ma tâche est terminée. Ce que j'ai été appelé à faire est fait. À d'autres, maintenant, appartient le soin de continuer et de faire progresser l'œuvre de la congrégation. Hein. Elle a une façon de parler qui est très peu sentimentalo machin. Hein. Or qu'elle est directe, cette femme. Et le père Levavasseur, rentré en France depuis le commencement de 1850, c'était son confesseur, eh bien, il a de longs entretiens avec cette supérieure générale admirable dont l'état de santé périclite. On est au mois de juillet 1851, elle a un mauvais rhume. Mais son esprit est toujours alerte. Alors elle parle un jour avec lui de ses voyages, puis elle dit, si vous saviez quel danger j'ai couru, mais aussi quelle grâce le bon Dieu m'a faite. Quelle protection il m'a accordée. Dans les derniers jours, elle passe de longues heures dans un état d'assoupissement. Elle dit, on croit que je dors. C'est ce qu'elle dit à Mère Rosalie Javoué, sa sœur, qui est venue la rejoindre à Paris. On croit que je dors, mais non, je repasse en mémoire tous les bienfaits de Dieu pour nous. Ils sont si grands, si nombreux, si immenses, que j'en suis confondu. Ce qui m'étonne, ce n'est pas que Dieu ait pu se servir de nous, qu'une n'étions que de pauvres filles de village, pour établir cette œuvre déjà si utile, et qui s'étend aujourd'hui dans les cinq parties du monde. Dans la main de Dieu, les plus faibles instruments peuvent de grandes choses. Alors, le 14 juillet 1851, elle apprend la mort de Monseigneur d'Autun, l'évêque, là. Et la nuit suivante, elle se réveille à diverses reprises, et chaque fois, elle prie pour lui. Au matin, elle dit à Mère Rosalie, sa sœur, « Nous devons le considérer comme l'un de nos bienfaiteurs. Dieu s'est servi de lui, oui, pour nous envoyer l'épreuve, quand en général, nous n'entendions autour de nous que des louanges. » Dans l'après-midi du même jour, le 15 juillet 1851, elle a une syncope, puis elle meurt paisiblement vers 6 heures du soir, à 71 ans. Elle était supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de Cluny depuis 43 ans. Évidemment que la nouvelle de la mort de Mère Javoué est reçue avec émotion partout, partout au monde. C'est le père Levavasseur qui écrit, qui l'a assisté, lui, durant ses derniers jours. Il déclare, c'est formidable, « C'est moi qui ai reçu les dernières confessions de sa vie, ses derniers entretiens et ouvertures du cœur sur son intérieur, sur ce qu'elle avait de plus intime en son âme. » Et quant à elle et quant à la congrégation générale aussi, je puis faire serment qu'il ne m'est pas resté le moindre souvenir qu'elle ait jamais eu à se reprocher une faute tant soit peu grave. Je dirais même vénielle, délibérée contre la pureté de son âme. Oui, cette digne mère est morte avec son innocence. Mère Rosalie Javoué est appelée, sa sœur, sa jeune sœur, à l'unanimité à succéder à sa sœur aînée. Lorsque 50 ans après la mort de Mère Javoué, on ouvre son cercueil, son corps est intact. La deuxième fois, en 1920, le même corps est là, mais noirci, pareil à une statue de bronze, écrit-on. Et la troisième fois, qui précède sa béatification, il ne l'est plus. Alors on se permet de prélever des reliques pour toutes ses filles, répandu dans le monde entier. Des reliques, ce n'est pas de la folie. C'est une parcelle du corps qui a été le temple de la Trinité. Le corps d'une sainte ou d'un saint. En 1913, un prêtre de la Guyane, en fouillant les mémoires des Noirs de la Mana, écrit « Les quelques rares qui ont connu la chère mère se lancent dans des récits quasi fabuleux. Ils sont persuadés que ce titre « chère mère » est exclusif à sa personne. » Car il évoque pour eux quelque chose d'extraordinaire et de supérieur, touchant au divin. C'est l'enfant du bon Dieu, non pas à la façon des autres créatures, mais envoyé du ciel pour aimer les Noirs, leur faire du bien et les donner à Dieu. Son souvenir laisse bien loin derrière elle le souvenir des meilleurs missionnaires de ce pays. Je vous rappelle que le 15 octobre, 1950, en la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, Anne-Marie Javoué a été béatifiée.